Pivet appelle sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de l'émission. Comme chaque vendredi, c'est la Libre Antenne. Nous parlons des thèmes que vous avez choisis, des dossiers qui vous intéressent, des sujets que peut-être nous n'avons pas abordés sur l'antenne de RFI. Vous avez la parole. Direction le Sénégal pour commencer. Bonjour Biran.
Bonjour Anne.
Vous vouliez revenir sur les élections législatives et surtout sur les résultats contestés de ces élections. Selon les chiffres officiels annoncés la semaine dernière, la majorité a remporté 125 des 165 sièges de députés. La coalition menée par Khalifa Sall, le maire de Dakar, seulement 7 sièges. Et l'ancien président Abdoulaye Wade, 19 postes de députés. Mais Abdoulaye Wade n'est pas satisfait du tout. Il a annoncé cette semaine qu'il comptait boycotter toutes les futures élections si elles étaient organisées par le régime actuel. Biran, est-ce que vous comprenez cette position?
Oui, Anne, je comprends parfaitement la position de l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, de vouloir boycotter les futures échéances électorales comme le président Macky Sall et son équipe gouvernementale devaient organiser. Dans la mesure où nous assistons à une mascarade électorale planifiée par ce gouvernement et son ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Dobre Diallo, ce à quoi nous avons assisté a été une calamité électorale. Comment aujourd'hui peut-on comprendre un pays démocratique comme le Sénégal qui organise des élections avec 30% des Sénégalais, dont 1 500 000 personnes qui n'ont pas pu retirer le carte électeur? Comment peut-on comprendre dans un pays aussi démocratique que le Sénégal qu'il y ait aujourd'hui une zone électorale comme Touba, qui est la deuxième circonscription électorale du Sénégal, où plus de 200 000 personnes n'ont pas pu voter? Comment peut-on comprendre dans un pays aussi démocratique que le Sénégal, des jeunes, des milliers et des milliers de jeunes, on leur a privé le droit de vote tout simplement parce qu'ils disposaient pas de leur carte et les préfectures ont refusé de leur remettre ce qu'on appelle les numéros d'immatriculation pour qu'ils votent?
Alors Biran, c'est vrai que l'opposition, l'autre grande coalition de l'opposition, celle qui est menée par le maire de Dakar, conteste aussi les résultats, mais elle a choisi de déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'Abdoulaye Wade n'aurait pas dû d'abord faire la même chose et utiliser les voies légales de contestation?
Il n'y a aucune voie de recours possible ici, parce qu'aujourd'hui on sait que
On peut saisir le Conseil constitutionnel quand même.
Le Conseil constitutionnel est inférieur au pouvoir exécutif, malheureusement. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Aujourd'hui, déposer un recours constituerait à crédibiliser ces scrutins-là. Aujourd'hui, je pense que vouloir déposer un recours, c'est accepter aujourd'hui le bon déroulement de ces élections. On ne peut pas continuer à accepter ça. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est de contester ces élections-là. Et ce Conseil constitutionnel, à mon avis, est illégitime aujourd'hui pour donner les résultats qu'il faut.
Donc pour vous, Biran, le boycott, c'est une bonne solution. Merci d'avoir été avec nous. On reste à Dakar. Meissa, bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous, vous, des déclarations d'Abdoulaye Wade sur un boycott des futures élections?
Tout d'abord, je voudrais signaler qu'Abdoulaye Wade, il est habitué des déclarations incendiaires vis-à-vis du régime de Macky Sall. Mais je pense que tous les Sénégalais savaient bel et bien que la coalition Benno Boukayaka présidentielle allait remporter ces élections. Toute l'opposition le savait, aussi bien Abdoulaye Wade que les autres. Et par rapport à ces déclarations, de ne pas participer à une autre élection organisée par Macky Sall, ce n'est que du bluff et il veut semer l'amalgame et le doute dans la conscience des Sénégalais. Il sait pertinemment que son fils Karim Wade ne pourra pas se présenter en 2019. Et il fait
2019,
pour...
c'est la date de la prochaine élection présidentielle.
De la prochaine élection présidentielle. Karim ne sera pas candidat. Abdoulaye Wade ne voudrait pas qu'un autre dignitaire du PDS soit candidat à la place de Karim Wade. C'est pour ça qu'il essaie de semer l'amalgame et le doute dans la conscience des Sénégalais pour dire qu'il ne participera pas à une élection.
Donc selon vous, c'est parce qu'Abdoulaye Wade n'aurait pas bien préparé sa succession au sein du PDS?
Mais c'est ça, il a toujours agi de la sorte. Il a toujours agi de la sorte. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son fils Karim Wade. Les autres dignitaires du PDS, c'est pour ça qu'il est venu représenter le PDS pour la tête de liste lors des élections législatives. Il n'a confiance en personne. Et malheureusement, les dignitaires du PDS ne sont pas aussi responsables pour prendre leurs responsabilités. Malheureusement, Abdoulaye Wade n'a dit que pour son fils.
Merci Messa, bonne journée à Dakar. Vous êtes nombreux ce matin à vouloir reparler de la Guinée et du procès sur le massacre du 28 septembre 2009 que l'on attend toujours. 8 ans après la mort de 157 opposants et le viol de plus d'une centaine de femmes dans le grand stade de Conakry. Alors, nous avions déjà lancé le débat il y a quelques jours, mais depuis nous avons reçu beaucoup de messages, notamment celui de Junior. Bonjour.
Bonjour.
Junior, pensez-vous que le procès commencera avant la fin de l'année, comme l'a promis le ministre de la Justice récemment ?
Bon, je ne suis pas là pour attester la promesse du ministre de la Justice, mais je marque une volonté affichée des autorités guinéennes sous l'égide de Alpha Condé pour l'organisation et la tenue de ce procès à la satisfaction de tous les Guinéens, parce que la justice guinéenne aurait montré plusieurs signes tangibles de son impartialité et de sa volonté à organiser ce procès.
Alors quels sont ces signes de bonne volonté selon vous ?
Plusieurs commissions rogatoires qui ont conduit aux mises en examen de plusieurs acteurs dans le dossier, même si leur culpabilité ne sont pas encore avérées et prouvées. Ça a commencé par le capitaine Moussa Dadis Camara, où une commission rogatoire l'a entendu.
Oui, qui était le chef de la junte militaire à l'époque et qui vit actuellement au Burkina Faso. Il a été interrogé, effectivement.
Il a été interrogé et Koumba Diakité a subi justement une commission rogatoire en tant que fugitif, et ce qui aboutit à son extradition sur la Guinée, et à la suite de cela, il est écroué.
Oui, Koumba Diakité, c'était l'aide de camp de Moussa Dadis Camara à l'époque, et lui, il avait totalement disparu pendant 7 ans. On l'a retrouvé arrêté au Sénégal et il a été extradé il y a quelques mois vers la Guinée. Ça, c'est un signe fort, selon vous?
C'est un signe fort, parce qu'un gouvernement qui ne manifeste pas la volonté d'organiser de procès aurait pu laisser Toumba Diakité dans la nature. Ça se fait à travers le monde.
Vous restez avec nous, Junior. On va accueillir Moutadi. Bonjour.
Bonjour, madame.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Est-ce qu'il existe une vraie volonté politique de faire avancer le dossier en Guinée ?
Pas du tout, absolument pas. Les réalités le démontrent. Vous savez, concernant le dossier du 28 septembre, j'avais dit que c'est une zone d'ombre très cachée. Et le président Dadis Camara, c'était le président de la République d'alors. Et nous avons des personnes comme général Sékouba Konaté. Et nous savons tous que c'était des hommes très influents au moment de la junte militaire en 2008-2009.
Il était ministre de la Défense à l'époque.
Absolument, absolument. Maintenant, tout le monde se focalise sur la personne de M. Diakité, comme quoi c'est le cerveau, alors que lui, il n'était qu'un simple exécutant, c'était un simple subalterne.
Pour l'instant, on ne le sait pas, puisque l'instruction n'est pas terminée et qu'il n'y a pas eu de procès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, beaucoup d'anciens responsables de la junte l'accusent, lui, et l'accablent, Toumba Diakité.
Mais à partir du moment où M. Dadis Camara, lui-même, il avait émis le souhait de rentrer dans le pays pour livrer sa version des faits, pour que lui-même il soit fait. Lui-même, il a assumé la responsabilité morale. Pourquoi est-ce que les autorités guinéennes de Conakry ont refusé que M. Dadis Camara revienne à Conakry? Ça, c'est une interrogation. Moi, je pense que s'il y avait la volonté politique de la part du gouvernement, et nous savons tous que les autorités actuelles du pays, ce qui est marrant, c'est que les autorités actuelles du pays n'occupait aucun poste de responsabilité du moment de Dadis Camara. Monsieur Alpha Condé n'était pas encore au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait, ok, que lumière soit faite? Ça, c'est une interrogation. Ok, une fois encore, moi je pense qu'il n'y a aucune volonté politique. Tant que Dadis ne sera pas, ok, n'aura pas retourné en Guinée, et que ceux qui ont continué d'occuper des postes de responsabilité au sein du gouvernement actuel, qui sont même accusés, jusqu'à ce que leur culpabilité soit affirmé ou bien infirmé par la justice, et je pense qu'il n'y a pas de volonté politique. Il faudrait que la Cour pénale internationale, enfin, prenne ses responsabilités pour que lumière soit faite. Les victimes attendent encore. Ils continuent d'attendre. Chaque fois, il faudrait que les victimes réclament. Il faudrait que la CPI envoie ici une commission pour que le gouvernement se bouge. Ok.
Merci beaucoup, Moutadi, de nous avoir appelé de Conakry. Junior, vous êtes toujours avec nous?
Je suis avec vous, oui.
Ce que disait Moutadi à l'instant, le fait que plusieurs personnalités inculpées dans cette affaire occupent aujourd'hui des postes importants, comme par exemple le directeur de l'agence de lutte contre la drogue, le gouverneur de Conakry, ça ne vous inquiète pas, ça ?
Non, absolument pas du tout. On peut pas faire une justice avec du sentiment. Il faut qu'on évite de politiser cette affaire parce que, madame, je vous rappelle que dans cette affaire du 28 septembre, c'est pas une justice de vainqueurs ni de vaincus, dans la mesure où l'actuel régime au pouvoir a été victime au même titre que tous les Guinéens le 28 septembre. Il vous souviendra que le président Alpha Condé est le président du Rassemblement démocratique.
Mais le fait que certaines personnes soient en poste aujourd'hui, certaines personnes qui occupent aujourd'hui des postes à responsabilité faisaient partie de la junte militaire au pouvoir à l'époque. Est-ce que vous comprenez que pour certains, eh bien, ça signifie un manque de volonté politique?
Non, ça ne signifie absolument rien du tout. Il pouvait être dans la junte politique au pouvoir et ne pas être coupable des faits incriminés au stade du 28 septembre.
Et est-ce qu'elles peuvent rester en poste alors qu'elles sont officiellement inculpées?
Tout à fait. Pas inculpées, mises en examen. Monsieur Nicolas Sarkozy est mis en examen, cela n'empêche pas d'occuper le Conseil d'État français. Madame, nous sommes en Afrique, c'est différent de la réalité en France. Ici, on voudrait que, lorsqu'on est cité comme témoin, qu'on abandonne toutes les charges et qu'on se retrouve au New France. Ça ne se passe pas comme ça, la justice. Et si, par malheur, nous les mettons en prison et que leur innocence soit approuvée, et quel est cet État qui va s'engager dans ce genre de dommagement des torts? Ça ne se passe pas comme ça. La Guinée ira à son rythme et les autorités actuelles ont montré des signes tangibles pour qu'on ait ce procès. Et d'ailleurs, on peut se rassurer avec Alpha Condé pour que ce procès ait lieu. Imaginez-vous qu'en 2015, l'actuel chef de l'opposition guinéenne a noué une alliance électorale avec le capitaine de la junte de l'époque. Et si par malheur ils arrivaient au pouvoir, je pense qu'on n'aurait plus eu d'espoir de juger de cette affaire.
Alors là, on empiète sur des questions politiques qui ne sont pas tout à fait le sujet pour lequel vous aviez appelé. Merci Junior, on vous souhaite une très bonne journée. Autre sujet sur lequel vous étiez nombreux à vouloir vous exprimer ce matin, le référendum qui a eu lieu samedi dernier en Mauritanie. Les électeurs devaient se prononcer sur une réforme de la Constitution qui prévoit un changement du drapeau national et la suppression du Sénat qui serait remplacé par des conseils régionaux. Bonjour Abou.
Bonjour.
Ce référendum était un peu particulier parce que presque toute l'opposition et la société civile avaient appelé au boycott. Résultat, le oui l'a emporté largement, 85% des voix pour. Que pensez-vous de ces résultats qui sont contestés déjà ?
Non, contesté, cela a été contesté depuis le dialogue. En fait, les élections sont bien déroulées, que le peuple mauritanien a adhéré vraiment à un projet de réforme en profondeur du pays, à savoir le drapeau national qui va désormais refléter les réalités de ce pays, et la suppression du Sénat qui était tout simplement une surcharge institutionnelle qui va disparaître et faire place aux conseils régionaux qui désormais seront auprès des populations au niveau des régions. Et nous pensons que cela contribuera, nous l'espérons aussi, au progrès de ce pays. Donc voilà, moi je vais beaucoup plus insister sur les conseils régionaux. Vous n'avez pas eu la chance de visiter les régions de ce pays. Ce sont des régions en déliquescence, ce sont des régions en abandon. Et nous espérons franchement qu'avec l'élection, avec la mise en place de ces conseils régionaux, il y aura un nouveau souffle pour ces régions. Il y aura un nouveau souffle pour ces régions qui permettra vraiment aux populations mauritaniennes de pouvoir de prendre leur destin en main. Ça a toujours été dit, ça n'a jamais été fait. Mais avec ces conseils régionaux, la Mauritanie vraiment ira de l'avant et ira de l'espoir.
Donc pour vous, c'est une bonne étape. Ahmed aussi voulait nous parler de ce référendum. Bonjour Ahmed.
Bonjour Anne, je n'ai plus de temps. Je vais garder le souffle pour vous dire que ces réformes qui seront issues d'un vote chaotique, scandaleux, frauduleux, suite à un référendum anticonstitutionnel, sont déjà contestés et controversés. Il vous parlait tout à l'heure de bienfaits pour la population. Le nouveau drapeau à bandes rouges ne symbolise à mes yeux rien d'autre que le caprice et l'affirmation d'un pouvoir personnel et dictatorial du régime d'Azi.
Et la suppression du Sénat, qu'en pensez-vous, le fait que le Sénat soit remplacé par des conseils régionaux?
Mais madame, rien qu'avec le combat des sénateurs qui sont bombardés par lacrymogène dans les rues, c'est déjà pour la défense et de la Constitution et des acquis démocratiques du pays.
Alors vous faites allusion à la mobilisation des sénateurs, puisqu'effectivement, certains d'entre eux ont refusé de prendre en compte le résultat de ce référendum et se sont mobilisés, ont expliqué que eux avaient l'intention de poursuivre leur travail. Vous considérez que c'était une erreur de supprimer le Sénat?
Mais absolument, madame, c'est un contre-pouvoir. Le Sénat, il a été fait pour agir, porter la contradiction au pouvoir central, à l'exécutif. Mais madame, les conseils régionaux dont il parlait tout à l'heure sont appelés à remplacer le Sénat et ils ne seront que des rings de boxe où se régleront des conflits traditionnels, séculaires, tribalaux, ethniques, madame. Le rapport se limitera à enregistrer des décisions dictées par le gouvernement, ses administrateurs véreux, pour mieux détourner nos deniers publics, maintenir les citoyens sous pression fiscale et sous les ordres politiques du pouvoir, madame.
Alors, Ahmed, on entend bien que vous êtes très en colère. Abou, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, effectivement.
Vous venez d'entendre Ahmed et son inquiétude quand il dit que le Sénat représentait un contre-pouvoir. Est-ce que effectivement il n'y a pas un risque pour la démocratie de n'avoir plus qu'une seule chambre, de n'avoir plus que l'Assemblée nationale?
Non, pas du tout. Ça, c'est un discours d'opposition systématique. C'est-à-dire que la conscience n'est plus là, la raison n'est plus là. C'est qu'on s'oppose parce qu'on a envie de s'opposer, quelles que soient par ailleurs les réformes. Même si c'est une réforme, j'allais dire divine, on s'oppose. Ça, c'est une opposition systématique. C'est un discours, on est habitué à ce discours. On ne va pas s'arrêter sur ce genre de discours. L'essentiel pour nous, que le Sénat, cette surcharge institutionnelle, et d'ailleurs, le problème du Sénat ne se pose pas qu'à Maurice, il se pose en France, il se pose partout dans le monde que c'est une institution inutile. Là, on est en train de parfaire les choses, le Sénat va disparaître et il y aura le tribalisme, le régionalisme, justement, ces questions vont être éliminées parce que désormais, chaque région aura en charge, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le transport de la région, donc prendra en charge ses propres préoccupations. Et nous pensons d'ailleurs qu'avec l'élection des conseils régionaux, cela contribuera à lutter contre le régionalisme, le tribalisme, ainsi de suite. Le Sénat, nous savons, le Sénat, en fait, le Sénat, je vous le dis, c'est des magouilles qui se passent. Ce sont des gens qui ont été élus par, je ne vais pas reprendre le discours officiel, mais
qui refuseraient de laisser leur pouvoir. Abou, tout à l'heure, vous nous parliez des contestations qui durent en fait depuis la période du dialogue. C'est vrai que cette réforme de la Constitution, elle a été discutée par le pouvoir et par l'opposition, mais pas toute l'opposition. Et donc, il y avait eu un débat sur la légitimité du référendum en lui-même. Est-ce que vous pensez, Abou, qu'il aurait fallu renégocier pour rédiger un texte qui fasse consensus et sur lequel tout le monde aurait voté? Parce que c'est pour ça que l'opposition a appelé au boycott. C'est parce qu'elle considérait que le texte était mauvais dès le départ.
Pourquoi renégocier? L'opposition, dès le départ, il s'est posé la question du troisième mandat. Le président a été très clair et très limpide dans cette question. Le problème du troisième mandat ne se pose pas. Donc, on a dépassé cette. Et d'ailleurs, il y a la plupart de ceux qui n'ont pas participé au dialogue. Au départ, ils étaient prêts à participer au dialogue. Après, les choses se sont déroulées ailleurs. Autrement, par exemple, moi, les classiques de l'opposition qui sont frappés par la limite d'âge. Et il y a cette question de limite d'âge aussi qui fait que la plupart, l'opposition que vous appelez radicale, qui ne participe
pas
au dialogue.
C'est pas moi qui ai prononcé le mot d'opposition radicale, mais là, on commence à rentrer dans des détails qui sont peut-être un petit peu compliqués. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve lundi. Lundi, nous parlerons du Mali après la découverte de deux fosses communes dans la région de Kidal. Dans le Nord, les Nations Unies ont ouvert une enquête. La procureure de la Cour pénale internationale est attendue le mois prochain dans le pays. Alors comment faire la lumière sur les exactions? Est-ce une bonne chose que la justice internationale et les Nations Unies se saisissent du dossier? Vous nous appelez dès maintenant pour participer.